Alors nous sommes au cours numéro 9, c'est bien ça, la sublimation. Il y aura encore trois cours ensuite. Et je vous rappelle que la toute dernière séance, ce sont les reprises de vos questions et conclusions. Donc nous ferons la dernière séance, la 13e, à partir de vos questions. Et en effet, dans le cours où on avait annoncé le pardon, on n'a pas beaucoup parlé du pardon dans le cours numéro 7, et donc une partie du cours numéro 13 reprendra cette question. Mais nous allons aussi accueillir vos questions, vos nouvelles questions. Alors aujourd'hui, on va essayer de traiter, Dominique et moi, d'un thème très controversé en psychanalyse, qui s'appelle la sublimation. La sublimation, c'est un terme technique en psychanalyse. C'est un terme que Freud a inventé. Et pourtant, c'est un terme, un concept que Freud n'a pas élaboré. Il en a donné une définition plus ou moins vague, avec quand même des éléments assez concrets. Mais on voit bien que Freud n'était pas à l'aise avec ce concept qui pourtant lui paraissait indispensable dans son arsenal de concepts psychanalytiques. Et donc les disciples de Freud se partagent entre est-ce un vrai concept psychanalytique, est-ce que ça correspond vraiment à quelque chose, ou est-ce qu'au contraire c'est un peu un faux concept, c'est un peu une illusion, ou bien c'est quelque chose de trop idéal pour que ça puisse exister. Voilà donc la question. Alors, qu'est-ce que la sublimation? Vous savez que selon Freud, l'homme est habité par des pulsions, par des désirs pulsionnels. Alors, les deux grands désirs pulsionnels, selon Freud, c'est Eros et Thanatos. Eros et Thanatos, donc les pulsions de vie, les pulsions de mort. Alors, bien sûr, on peut décliner ça de différentes manières, hein. Il n'y a pas que ces deux-là. Enfin, ce sont les deux principales, et je crois que c'est vrai que c'est intéressant de toujours considérer ces deux pulsions. Et elles sont en nous à la limite du somatique et du psychique. Les pulsions chez les animaux sont purement instinctuelles, elles viennent du corps. Elles sont très peu gérées par le psychisme. Tandis que chez l'être humain, les pulsions qui viennent du corps passent toujours par le psychisme et sont déjà des désirs pulsionnels, désir étant quelque chose de beaucoup plus fin, hein, de beaucoup plus psychique, déjà éventuellement même intellectuel, spirituel, tandis que la pulsion vient du corps. Donc, désir pulsionnel. Comment est-ce que les êtres humains se débrouillent avec leurs désirs pulsionnels? C'est une source d'énergie qui provient du corps. Eros, Thanatos, ce sont des énergies qui désirent se déployer. Ce sont des tendances qui cherchent à trouver satisfaction. Alors comment fait-on pour donner une ouverture à ces désirs pulsionnels, leur donner satisfaction? Eh bien, chaque être humain donc doit gérer cela. Il y a sans doute mille manières de gérer ses propres pulsions. Et la sublimation est justement une manière, et la plus élevée, pourrait-on dire, de gérer ses pulsions. C'est donc un processus de gestion des pulsions, mais qui demande toute une élaboration, c'est assez complexe. Et Freud, donc, en a donné une définition, sans beaucoup l'élaborer. Voici quelques exemples d'abord de sublimation, de pulsion. Alors ce sont des exemples vraiment basiques, hein. Ne me dites pas que c'est ça que j'ai dit à propos de la pulsion et de la sublimation, c'est vraiment basique, mais pour vous donner un peu une idée. L'agressivité, comment est-ce qu'on va sublimer l'agressivité? Eh bien par exemple dans le sport, dans la concurrence commerciale, dans la guerre commerciale, c'est une manière de sublimer l'agressivité. Comment va-t-on sublimer la curiosité sexuelle? Tout être humain est curieux de ce qui se passe au niveau de la sexualité. Eh bien, on peut sublimer ça en faisant une science. ou une contemplation artistique. Hein? Bien sûr, à ce moment-là, on s'élève au-dessus de l'objet immédiat, mais donc on en fait quelque chose de plus élevé. La définition donc de la sublimation serait ceci: la tendance pulsionnelle abandonne son but dirigé vers un plaisir immédiat pour en adopter un autre but, qui soit d'un ordre plus élevé, qui soit par exemple d'un ordre social, d'un ordre éthique, d'un ordre scientifique, artistique, religieux. On abandonne un but immédiat, par exemple tuer, casser, etc., et on adopte un autre but: je deviens policier, je deviens soldat pour défendre l'ordre. Voilà, je sublime, hein, une tendance en moi à faire, voilà, à me battre pour la bonne cause, ça c'est la sublimation. Selon Freud, il n'y avait que deux sublimations réussies, la science et l'art. La science, bien sûr, celle qu'il pratique, bien sûr, hein, et l'art, tandis que, au contraire, la religion, qui se proposait aussi comme une espèce de sublimation, était pour lui quelque chose de plutôt faux, quelque chose de l'ordre de l'illusion. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de sublimation, il faut parler de l'illusion. Il faut gérer la question de l'illusion. Donc voilà la définition de la sublimation: une tendance pulsionnelle abandonne son but immédiat pour adopter un but plus élevé, socialement acceptable, et même loué, même admiré, etc. Alors, beaucoup de livres ont été écrits sur la sublimation, enfin beaucoup, oui. Il y a notamment celui-ci qui me semble très important, de Antoine Vergoot, un prêtre belge psychanalyste, très grand connaisseur de Freud et de Lacan, et aussi très critique par rapport à la théorie freudienne. La psychanalyse à l'épreuve de la sublimation. La psychanalyse à l'épreuve de la sublimation. Ça veut dire que selon Vergoot, si la psychanalyse n'élabore pas, hein, le concept de sublimation, d'une certaine manière, elle n'a pas de but, elle n'a pas de consistance, elle ne peut pas faire sens. Il faut que la psychanalyse parle de la sublimation, et si elle n'en parle pas, eh bien d'une certaine manière, elle tourne en rond, c'est un jeu pulsionnel sans queue ni tête. Alors, nous avons étudié, Dominique et moi, ce livre-ci et d'autres. Il y a deux livres de Sophie de Mijolam-Mellor sur la sublimation, dans la collection Que sais-je aussi. Vous avez ça dans votre bibliographie sur votre feuille de route. Et en ayant étudié chacun séparément ces bouquins, et puis en ayant discuté, en ayant relu cela ensemble, nous avons fait une espèce de synthèse dont nous réclamons le copyright, hein, parce que je crois que c'est vraiment une synthèse qui nous est personnelle et qui met donc la sublimation non pas comme un concept qui se définit par lui-même, mais comme un processus, un chemin à parcourir. Et lorsqu'on le voit dans un chemin à parcourir, évidemment, il y a toutes sortes de choses qui s'éclairent et toutes sortes d'objections qui tombent, ou en tout cas qui se rééquilibrent avec d'autres considérations. Ce chemin à parcourir, vous l'avez sur votre feuille de route, dans le schéma, où il est indiqué quatre étapes qui vont en progressant. 1. L'idéalisation, en bas, c'est le premier stade. 2. Le renoncement. 3. Le temps narcissique. Et 4. Enfin, la sublimation réussie, plus ou moins réussie, parce que une sublimation parfaite n'existe sans doute pas. La perfection n'existe pas, la sublimation parfaite sans doute non plus. Mais voilà, il y a ces quatre étapes d'idéalisation, quatre étapes qui se déroulent dans le temps, mais qui sont aussi des étapes logiques. D'abord, pour sublimer quelque chose, il faut être tenté, attiré par un idéal, par un grand idéal. Alors moi, je vais parler plutôt de la sublimation, je dirais, à l'intérieur de la vie consacrée, incluant le célibat, et Dominique, dans la seconde partie, parlera de la sublimation à l'intérieur de la vie de couple. Il n'y a aucune vie humaine qui ne puisse être vécue sans sublimation. Si tout le monde en est au stade du passage à l'acte dès qu'il y a une pulsion, évidemment, c'est le chaos, c'est la jungle, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de civilisation, il n'y a rien du tout. Hein? Il faut la sublimation. Jusqu'à quel point? C'est là la question. Et peut-on la réussir plus ou moins loin? Ça, c'est aussi la question. Mais de toute façon, les êtres humains n'en vivent pas au niveau de leurs pulsions. Hein? Bien sûr, il y a ces pulsions, mais ils se donnent aussi des idéaux plus ou moins élevés. Et on peut supposer que dans la vie consacrée, eh bien le jeune qui veut s'engager dans la vie consacrée, voilà, tout à coup, désire rencontrer Dieu, vivre avec lui, être dans cet idéal d'une vie entièrement donnée à Dieu, entièrement présente à Dieu, de jouir de sa présence dans la prière, de lui plaire, d'observer tous ses commandements, d'en recevoir beaucoup de grâce. Il est comme tombé amoureux de Dieu, il ou elle, hein, et voilà, sa vocation se dessine comme quelque chose d'absolument extraordinaire. Et cette idéalisation de l'objet qu'on se donne comme but de sa vie donne évidemment une grande énergie, une grande puissance, un grand dynamisme à la personne. Elle mobilise le moi se centre, hein, autour de ce but qu'on se donne, qu'on entrevoit, qu'on n'espère pas si lointain que ça, pas si difficile à atteindre, et même si c'est difficile, on y va quand même, parce qu'on a beaucoup d'idéalisme. Voilà une première étape. Beaucoup de psychologues disent que la sublimation, c'est de l'idéalisation à outrance, rien de plus. Nous disons qu'il faut de l'idéalisation. S'il n'y a pas d'idéalisation, il n'y a pas de mobilisation, du moins, de mise en route. Mais bien sûr, se mettre en route, c'est pas arriver encore au bout du chemin. Hein? Donc, voilà, c'est une première étape. Une seconde étape, c'est que, par exemple, voilà, je fais mon noviciat, et je fais 2 ans de noviciat, et je me rends compte que mon idéal, ben, c'est très très beau mon idéal, mais c'est quand même un peu dur, hein? Quand même pas si facile que ça. Hein. Quand je suis entré, c'était un peu la lune de miel, tout allait marcher comme il faut, etc. Puis je me suis rendu compte que ça n'avait pas changé grand-chose à mes habitudes, qu'il fallait quand même faire beaucoup d'efforts, et que ces 3 vœux, nom d'un chien, ces 3 vœux, c'est quand même difficile. Hein. Renoncer à toute satisfaction sexuelle, renoncer à son autonomie par le vœu d'obéissance, renoncer à l'aisance matérielle par le vœu de pauvreté, tout ça c'est quand même pas mal d'humiliation et pas mal de frustration qui deviennent comme un obstacle à mon idéal. Je me rends compte qu'il y a un temps de renoncement. Si je veux poursuivre cet idéal tel que je me le suis proposé, je dois m'imposer de sérieux renoncements. Mais est-ce que ces renoncements sont impossibles? Est-ce qu'ils sont suffisamment lourds et difficiles pour que je renonce? Ou au contraire, je me dis non, moi je suis capable, avec la grâce de Dieu, avec la grâce de mes frères, parce que nous partageons cet idéal à plusieurs, de passer au-delà, hein, de passer à travers ce renoncement et de continuer à poursuivre cet idéal. Le renoncement pur pour lui-même, ça ne marchera pas. Hein. Le renoncement est comme une désidéalisation du premier temps. Se rendre compte de ce renoncement, c'est désidéaliser ce premier temps et se rendre compte qu'il faut de l'énergie qui vienne d'ailleurs que de simplement mes illusions, parce qu'il y avait une part d'illusion et finalement, hein, dans ce que je me suis proposé comme idéal, une part d'illusion, mais bénéfique parce qu'elle me met en route. Mais disons... qui n'est pas si bonne si j'en reste à ce niveau-là. Il faut aller plus loin. Et donc, je peux me dire, voilà, c'est vrai que je me dévalorise aux yeux des autres et à mes propres yeux parce que je n'ai pas ce qui fait, ce qui valorise les autres, l'argent, le plaisir, le pouvoir, etc. Je vais me revaloriser autrement. Je vais renforcer mon moi et je vais... entrer dans ce chemin de construction du moi, en disant voilà, c'est quand même possible, tout en renonçant, d'être une personne solide, d'une personne valable, une personne qui est consistante, qui est admirable, et j'entreprends des choses pour me construire, par exemple des études, ou j'entreprends un projet difficile, je vais partir quelque part avec un projet, etc. Je sais que c'est dur, mais c'est beau. Et ça me donne une satisfaction. Satisfaction narcissique, dira le psychologue. Hein. Mais c'est grâce à cette satisfaction de faire quelque chose de grand et de beau que je parviens à vivre le renoncement. Et le renoncement n'est plus à l'avant-plan de ma vie, il est au second plan parce qu'il me permet de faire quelque chose de beau et de grand. Alors la quatrième étape, c'est la sublimation réussie, c'est évidemment de ne pas en rester à ce temps narcissique. De ne pas être un grand professeur ou un grand directeur de projet dans le tiers-monde, etc., uniquement pour être soi-même hein, admiré et pour être soi-même valorisé. On suppose que ce sujet, bon, a une certaine consistance, oui, mais que c'est quand même pour les autres qu'il le fait, c'est quand même pour Dieu. Il se décentre de lui-même, il se libère de lui-même. Ce temps narcissique n'est pas le but de l'opération, hein. Il renonce, bon, tant mieux, il a réussi à renoncer, bon, il se construit, tant mieux. Mais tout ça, c'est quand même, c'est le premier point de l'idéalisation, c'est pour Dieu, c'est pour les autres, c'est pour l'amour. Donc voilà, le troisième, du passage du troisième au quatrième point est aussi très important. Il ne faut pas rester dans ce temps du narcissisme, mais qui est un temps indispensable. Hein. Je crois que ça, c'est tout à fait évident qu'il n'y a pas moyen de passer de 1 à 4 sans passer par le renoncement, hein, et sans passer par le rééquilibrage du renoncement dans ce temps narcissique. Alors voilà, ça c'est un peu rapidement les quatre étapes, mais il peut y avoir des dérapages à ces différentes étapes. Et je crois que ça peut éclairer d'ailleurs beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui. L'idéalisation, c'est un début nécessaire, donc je reprends maintenant les quatre étapes, et vous voyez, je prends un petit peu les dérapages qui sont indiqués en 1A, 2A, 2B, 3A, 3B. Donc on a plutôt été sur le dessus de la ligne, maintenant on va sur le dessous de la flèche. Si je reste dans l'idéalisation un peu naïve et que après non seulement 2 ans de noviciat, mais aussi 10 ans de vie religieuse et 15 ans de sacerdoce, je suis toujours là avec mon idéal béat, à dire que tout est merveilleux, que tout est beau, que tout est facile. Et c'est un peu un manque de maturité. On n'a pas rencontré la réalité des choses. On n'a pas rencontré non plus les illusions qu'on se faisait sur soi-même. Alors ce premier temps d'idéalisation peut être accepté par les formateurs pendant un temps, mais il faut absolument que les jeunes novices ou que les séminaristes, etc., soient capables de rencontrer la vie et ne décrochent pas simplement parce que ils ont eu 2-3 petites désillusions dans la prière, hein, parce que rencontrer Dieu tous les jours dans la prière, le rencontre-t-on, oui ou non, on se fait beaucoup d'illusions sur soi-même, sur Dieu, mais non, ce ne sont pas des illusions, oui, mais tout ça, c'est un cheminement à faire. Hein. Donc, voilà, cette part d'idéalisation, va-t-on rester dans une idéalisation béate ou va-t-on lui donner du corps, de la consistance, grâce aussi à nos frères, comme je disais, hein, qui eux aussi vivent des désillusions peut-être, mais qui vont au-delà en disant non, c'est en creusant plus profond qu'on va vraiment découvrir le vrai Dieu, parce que le vrai Dieu, il est présent, mais il est aussi inaccessible, la théologie le dit bien, hein, et les mystiques le disent tous, Dieu est là, mais il est bien loin aussi de notre mainmise sur lui. Hein. Et donc il y a tout ce travail de désillusion qui doit se faire autant sur Dieu que sur nous-mêmes d'ailleurs. Et c'est là que les autres et la communauté où on se porte les uns les autres est évidemment importante. On peut jouer les uns pour les autres le rôle de passeur d'angoisse, hein, à des moments où voilà, on n'a plus de difficulté à vivre cela. Si on reste dans cette espèce d'idéalisation béate, eh bien, on est sans doute un religieux ou une religieuse immature, hein, qui reste un peu avec ses désirs, illusions, etc., et qui parle très facilement de trouver Dieu, de rencontrer Dieu, qu'on va prier pour avoir des miracles, pour avoir je ne sais pas quoi, etc. Disons, des personnes qui manquent de maturité. Ça existe dans la vie religieuse, bien sûr. Hein. Des personnes qui ne prennent jamais de responsabilité, qu'on ne peut pas nommer dans un poste important, parce que non, moi je suis à la prière, je ne sais pas, voilà. Alors, Un deuxième point de dérapage possible, c'est dans le renoncement. Si, comme religieux, on se rend compte que ce renoncement est trop difficile, alors qu'est-ce qu'on fait ? Soit on se dit, oui, c'est trop difficile, oui, moi je ne suis pas capable de vivre ces trois vœux, évidemment, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire semblant de les vivre, mais en fait je ne vais pas les vivre. Je vais donc décider de garder cette vocation dans laquelle je me suis engagé, de poursuivre cette vie religieuse, mais comme je sais très bien que ça ne marchera pas, évidemment, de temps en temps, il y aura des passages à l'acte, de temps en temps, je ne vais pas renoncer à tout ce que ces vœux m'imposent de renoncement, etc. Mais ça, c'est mon affaire, les autres n'ont pas besoin de le savoir, j'organise ma vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la perversion. C'est le dérapage 2A, qui est un dérapage très important, évidemment, et qui explique pourquoi certains, sans doute, vivre des années et des années sans être démasqués, parce qu'ils vivent leur vie en toute hypocrisie, le sachant bien quant à eux, mais en gardant la façade pour l'extérieur. Mais peut-être que la personne ne se rend pas tout à fait compte qu'elle ne peut pas vivre ses vœux. Il y a un refoulement trop grand en elle. Alors, je ne suis pas très capable d'en vivre, mais je ne veux pas me l'avouer, je ne suis incapable de me rendre compte que ce n'est pas ma voie, je suis incapable de me rendre compte que je dois faire quelque chose. Et dans ce cas-là, on risque de tomber dans la morosité, ou dans la dépression, ou dans l'agressivité, et de vivre sa vie religieuse, comme on peut, mais pas en étant très joyeux, pas en étant très heureux, parce que ces renoncements, on les vit, mais on les subit. On ne les prend pas à bras le corps, on ne les accepte pas au fond. Mais la vision de notre incapacité à le faire, elle est bouchée par un refoulement quelque part. Je ne peux pas cesser d'être religieux parce que mon père et ma mère attendent depuis toujours le fils religieux que je suis. Alors moi, je ne vais pas leur dire maintenant que je ne peux pas le faire. Je suis bien obligé. Et puis quand il meurt, évidemment, je quitte la compagnie. Ce sont des cas assez fréquents, de gens qui quittent un ordre religieux lorsque les parents décèdent. Voilà. Mais il est possible, on peut espérer que, au-delà de cette immaturité, au-delà de cette perversion très grave, de cette morosité ou dépression, il y a encore un autre chemin pour celui qui se sent capable de renoncer, malgré les difficultés. C'est ce temps narcissique dont je vous parlais. Et là aussi, très grande place à donner aux modèles qui sont autour de nous. Les modèles qui peuvent être Saint Ignace au XVIe siècle, mais qui peuvent être aussi un compagnon de ma communauté, ou bien tel ou tel personnage, homme ou femme, qui vivent à fond l'Évangile, et qui sont pour moi des modèles, et qui m'aident à passer ce renoncement et à entrer dans ce temps narcissique, pas pour moi-même, mais pour l'offrir aux autres. Ça, c'est la phase 3. Mais à la phase 3, il peut aussi y avoir des dérapages, évidemment. Alors, dans la phase 3, nous sommes déjà beaucoup plus loin dans le processus de la sublimation. On n'est plus dans l'idéalisation immature. On a accepté et on est même capable de vivre les trois vœux. On a construit son moi. On est capable de le faire. Mais ça reste quand même difficile. Ça reste difficile. On n'a pas du tout fait le choix, si j'ose dire, de la perversion. On sait qu'on en est capable, mais à certaines conditions et en faisant un effort. Mais voilà. Il y a quand même des moments où ça ne marche pas trop bien. C'est ce qu'on pourrait appeler la dissociation, le clivage, la compensation. Le sujet pourrait donner l'apparence de vivre le renoncement, et en fait il le vit réellement dans un très grand nombre de cas. Et cependant, par moments, il peut y avoir une face plus ou moins cachée de sa vie privée, dans laquelle il satisferait ses pulsions par des compensations, par des petits passages à l'acte, de gravité modérée, disons. Mais il y a beaucoup d'autres compensations. Il y en a énormément d'ailleurs. L'alcoolisme, la gourmandise, les distractions culturelles, le contrôle, l'autoritarisme, les achats inconsidérés, les équipements vidéo, informatiques, etc. On voit bien parfois dans la communauté certains tout à coup qui ont un matériel extraordinaire. Bon, ça, ce sont aussi des types de compensation, hein, du niveau, ben, je dirais, de l'avoir, ou bien du niveau, bien du pouvoir. Quand on a quand même, qu'on contrôle tout le monde, ben voilà, on est quand même satisfait, hein. C'est pas vraiment comme ça qu'il faudrait entendre l'obéissance, mais moi, moi ça me satisfait, quoi, hein. Voilà, l'autoritarisme, ou bien sûr, des choses de l'ordre de la chasteté, une vie sexuelle fantasmée, ou active, solitaire, parfois avec d'autres, un peu hypocritement dérobée à la vue des autres, mais un peu, parce qu'on ne veut pas être hypocrite. On fait l'effort pour ne pas l'être. Et je crois que là, ce qui fait la différence par rapport au pervers, c'est qu'il y a un vrai combat spirituel. Il y a une vraie lutte. Il y a un désir sincère d'arriver à unifier sa vie. Il y a bien sûr peut-être la masturbation, le tourisme affectif, il y a peut-être de temps en temps ceci ou cela, mais on en parle à son père spirituel. On fait des efforts, on prend les moyens, hein, on fait pénitence. Alors la pénitence, c'est quoi? Eh bien, c'est d'une certaine manière déplacer le combat dans un autre domaine où on est capable de vaincre et puis de dire c'est ça que je veux aussi faire dans l'autre domaine. Hein. C'est peut-être plus facile de jeûner une journée entièrement que de pardonner à son frère. Mais je vais jeûner une journée entièrement pour pardonner à mon frère et en me disant, bon ben, si je suis capable de vaincre sur ce plan-là, symboliquement, hein, j'insiste, eh bien je serai capable aussi un jour, avec la grâce de Dieu, de pardonner à mon frère. Je crois que c'est comme ça, en tout cas, que moi j'entends la pénitence et le combat spirituel. On déplace le combat pour symboliquement et avec la grâce de Dieu le gagner quelque part en disant ça c'est la victoire que Dieu va me donner un jour. Voilà cette dissociation, clivage, compensation, c'est évidemment je dirais le fait de quelqu'un qui est capable de vivre les vœux, qui est capable de faire beaucoup de choses pour le Seigneur et pour les autres, mais qui évidemment n'est pas parfait et lutte, hein, contre la dissociation qui pourrait s'établir dans sa vie. Évidemment, il faut que cette dissociation ne glisse pas vers une perversion. La différence, c'est lorsqu'elle est consciente et organisée, ça devient une perversion. Alors, on est au niveau 2. Hein. Tandis que, comme je disais, s'il y a un vrai combat, une vraie ouverture au Père spirituel, un vrai prise en main des moyens qu'il faut, etc., eh bien, on est plutôt dans le clivage. Un dernier écueil, ce serait le narcissisme installé. La personne qui, et parfois on présente d'ailleurs ces religieux comme des modèles, ces religieuses comme des modèles, eux ils ont tout réussi, hein, ils renoncent aux trois vœux, pas de problème, ils sont bien construits, ils font des choses merveilleuses, tout le monde les admire, et finalement, eh ben, c'est ça le but de leur vie, quoi. C'est que tout le monde les admire, l'œuvre qu'ils font, très généreusement d'ailleurs, pour les autres bien sûr, mais d'abord pour eux, quoi. Hein. Et là aussi, je dirais, il y a un déclic, hein, qui est parfois assez subtil chez certains, chez d'autres non, c'est plus naturel, mais il y a un déclic parfois difficile à faire. Hein. Pourquoi fait-on telle œuvre, hein? Pourquoi fait-on telle chose? Est-ce vraiment pour se donner aux autres? Et on le voit bien parfois lorsqu'il y a des revers, lorsque l'œuvre ne marche plus si bien, etc., lorsqu'il faut abandonner, on voit l'attachement ou le détachement que l'on avait par rapport à ce qu'on faisait. Alors, je termine en disant que tout cela, évidemment, n'est pas à couper au couteau, que la vie, c'est sans cesse du flux et du reflux, hein, qu'on peut avoir des périodes magnifiques, hein, où tout va bien, et puis des périodes où ça va plus mal, que de toute façon, l'effort de sublimation est toujours nécessaire, hein. On ne peut jamais dire « maintenant j'ai fait mes quatre étapes, je suis sur mon trône au quatrième étage et il n'y a plus personne qui peut me déranger », ça n'existe pas, hein. Il y a toujours, la vie nous apporte toujours de nouvelles désillusions, de nouveaux renoncements à faire, de nouvelles blessures narcissiques qu'il faut gérer, Et je crois que c'est peut-être l'intérêt de la retraite annuelle que font les religieux, je l'ai indiqué là sur la feuille, hein, vers le milieu. Une retraite annuelle où justement on se replonge un peu dans sa vocation des débuts, on se remotive, on relit sa vie, on revoit qui on est et pourquoi on fait ce qu'on fait. On se remotive peut-être si on a perdu la motivation, ou bien si la désorganisation s'est installée de manière peut-être un peu plus grave, peut-être faut-il faire une thérapie. Et là je la distingue de la retraite. Une thérapie pour, avec un spécialiste des processus plus inconscients, je dirais, de la vie religieuse ou autre, eh bien on peut un peu retrouver le fil rouge de sa vie, de sa vocation. Voilà, je m'arrête ici et je passe la parole à Dominique qui va vous parler de la sublimation dans la vie de couple.
Voilà, est-ce qu'on peut parler de travail de sublimation dans la vie de couple ? Alors, la façon dont on parle de la sublimation, selon Antoine Vergotte, comme processus, hein, avec différentes étapes, n'est pas partagée par tous les psychanalystes. Hein. Il y a différentes façons de concevoir. Donc, je vais vraiment m'appuyer sur Antoine Vergotte. En insistant sur le fait que la sublimation est un processus de transformation des désirs et pas de déplacement des désirs. Ça, c'est quelque chose d'important. Des désirs pulsionnels sexuels en un désir plus élevé socialement parlant. Alors, c'est pas simplement déplacer sur un plan mystique un désir érotique. Il faut qu'il y ait une transformation de la pulsion sexuelle qui se fait sans refoulement. Alors, parce que s'il y a refoulement, il y a refoulement dans l'inconscient et donc il y a refoulement de conflit. Et donc, il n'y aura pas cette transformation des désirs. En fait, je suis en train de vous dire exactement le même genre de processus que ce qu'on a vu pour l'enfant par rapport aux désirs illusions, hein, qui sont une façon d'échapper à un processus de transformation du désir. Ici, on parle de l'adulte et du travail qu'il doit faire par rapport à ses pulsions sexuelles, mais on est en fait dans le même type de travail psychique. Comment est-ce qu'on va renoncer à des passages à l'acte et comment on va le faire sans refoulement, mais dans une transformation qui garde le désir vivant. Ça, c'est aussi un point très très important. Bernard a parlé des renoncements, des deuils, etc. Il s'agira vraiment d'un travail au niveau du couple, de, non seulement de transformation des pulsions, mais aussi de garder le désir vivant tout au long de notre vie. Et quand ça marche, eh bien, pour que ça marche, il faut que le désir soit satisfait, qu'il crée du lien avec l'autre et en soi-même, et qu'il nous permette de nous unifier au niveau du corps, du psychisme, de l'intelligence et du spirituel. Donc c'est complexe, c'est pas si facile. Donc il ne s'agit pas d'un déplacement, mais d'une transformation d'un désir pour le maintenir vivant et qu'il puisse créer du lien. Alors, dans la vie de couple, est-ce qu'il y a des renoncements à faire sur le plan des pulsions sexuelles ? Oui, évidemment. L'autre, on va... Même si on l'a idéalisé au début, eh bien, il va se révéler être différent de ce qu'on avait idéalisé, pas toujours disponible, pas toujours comme on veut, quand on veut. Et donc, bien sûr, il y a tout ce travail de renoncement, de chute de l'idéalisation auquel on va être confronté. Et la deuxième chose, c'est que le monde extérieur reste rempli de personnes très attirantes et très agréables. Et donc, évidemment, si on veut vivre une vie de couple dans la fidélité, il y a un travail de renoncement aussi par rapport à toutes les personnes extérieures qui, à un moment donné, au moment où on désidéalise celui ou celle qu'on a choisi, deviennent plus attirantes que celui qu'on a choisi. Et donc, pour cette raison, les psychanalystes, beaucoup de psychanalystes, disent qu'une vie de couple qui dure est en elle-même un processus, un travail de sublimation. Parce qu'on est au travail pour construire un lien qui n'est pas que sexuel, qui est censé nous unifier et qui doit se créer aux différents niveaux anthropologiques. Alors, est-ce que le point de départ pour construire un couple doit être sexuel? Alors, dans notre société, souvent, le point de départ d'un couple, c'est le désir sexuel. Et donc, c'est pour ça qu'on va partir de là aujourd'hui. La fois prochaine, je parlerai aussi du lien conjugal et parental, en disant que finalement, dans un couple, il y a trois types de liens qu'on construit ensemble en général, le lien sexuel, le lien conjugal et le lien parental. Mais on va partir aujourd'hui du lien sexuel pour essayer de comprendre ce processus de sublimation à partir de là. Alors, c'est sûr que si on construit son couple d'abord à partir d'un lien sexuel, il y a un gros travail pour que ce lien sexuel ne reste pas que sexuel et qu'il se passe à tous les niveaux anthropologiques. Ce n'est pas évident que le corps à corps devienne un cœur à cœur, un tête à tête, un esprit à esprit. Donc, c'est des liens différents chaque fois à construire. Ce qui m'a intéressé aussi chez Vergotte, c'est qu'il remet à l'honneur l'idéalisation, qui est quand même très suspecte chez beaucoup d'auteurs. Il remet à l'honneur l'idéalisation comme moteur du désir. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à construire cette idéalisation? Déjà, à ce niveau-là, il y a beaucoup de ratés. Donc, on va prendre comme auteur Deuckartz, François Deuckartz, qui était professeur à l'UCL dans les années 70-80, si je me souviens bien. Voilà, et qui nous parle de la construction du lien sexuel et de toutes les étapes de construction qui ne sont pas évidentes. Je vais commencer par vous donner un exemple clinique d'un jeune de 26 ans, qu'on va appeler Julien, qui vient me trouver avec le problème suivant. Je voudrais avoir une copine, j'en ai jamais eu, je sens que j'ai un blocage. Alors c'est un jeune que j'ai connu quand il était étudiant à l'université, que ses parents m'avaient envoyé parce qu'il avait des difficultés relationnelles, il étudiait tout le temps, il avait du mal à avoir des amis, il avait un petit groupe d'amis depuis l'enfance, mais il n'arrivait pas à l'université à créer des nouveaux liens. Il avait beaucoup de mal à parler de lui, il avait beaucoup de mal à exprimer ses émotions, et donc on a fait tout un travail par la parole pour qu'il arrive déjà à me parler à moi, c'était déjà très compliqué. Mais bon, après un an ou deux de travail, il y a quelque chose qui s'est vraiment construit, où il est devenu beaucoup plus à l'aise socialement. À l'époque, je lui avais demandé où il en était au niveau amoureux, et il n'avait jamais été amoureux, et il me disait, écoutez, j'ai pas tellement de temps de m'intéresser aux filles, et puis je suis encore trop jeune, ça viendra plus tard. Et puis, bon, bah, 5 ans après, il revient en me disant, bah, écoutez, je crois que j'ai un problème qui bloque ma possibilité de tomber amoureux, et j'aimerais bien comprendre ce qui m'arrive. Et il me raconte que pendant l'adolescence, son père lui disait, ainsi qu'à ses frères, « Alors, pas d'histoire avec les filles avant d'être capable d'assumer un bébé. » Bon, donc toute son adolescence, il l'a passée avec une grande peur de la sexualité et surtout des conséquences de la sexualité. C'est une famille chrétienne et pour lui, c'est important aussi de ne pas vivre des expériences amoureuses superficielles. « Je veux du sérieux, j'ai des amis. » J'ai des amis, eux, mais le problème, c'est que dès que je commence à apprécier une fille, je deviens incapable de la désirer. Ça se coupe. Alors, je me suis dit que je devais peut-être essayer, quand je sors en boîte, et me laisser draguer par une fille qui m'attire. Ça me ferait peut-être moins peur, et puis qu'après, j'essayerai d'approfondir la relation. Comme ça, si c'est une fille que je ne connais pas, c'est pas si grave si ça rate. C'est ça qu'il me dit. Il me dit, mais ça bloque quand même quand je suis en boîte, parce que quand je trouve une fille attirante, je me dis, oui, mais pourquoi celle-là? La voisine est bien aussi, pourquoi je... Voilà. Et puis avec laquelle, ça serait plus facile d'approfondir après? Qu'est-ce qui me dit qu'avec celle-là, ça sera plus facile qu'avec la voisine qui est tout aussi jolie, etc. Et donc finalement, ça bloque aussi. Voilà. Donc, il y a cette difficulté dès le départ, d'arriver à idéaliser quelqu'un, et dès qu'il y a attirance, il y a cette coupure du lien, tout de suite. Alors, Deuckartz analyse les différentes étapes qui permettent de construire un lien sexuel, et la première étape, il en parle dans ses termes en disant « L'excitation sexuelle, bien que créant un besoin, est inhibée dès sa perception dans son mouvement vers l'autre. Alors tout ce que Descartes va nous dire, ça reste vrai aujourd'hui, même s'il a écrit il y a bien 40 ans, sauf lorsqu'on est dans une sexualité perverse. Dans les troubles narcissiques dont je vous ai parlé la fois dernière avant les vacances, mais ça joue différemment. Mais donc normalement, l'émoi sexuel déclenche en même temps un frein à cause de la peur de la réaction de l'autre. C'est pas un frein moral, c'est un frein psychique. Alors l'inhibition, ce frein va diminuer si on perçoit la bienveillance de l'autre, si on ne se sent pas menacé par l'autre. Mais c'est normal et nécessaire qu'il y ait ce frein qui nous permet de ne pas passer à l'acte. Et finalement, grâce à ce frein, il y a une intériorisation de la relation à l'autre, à l'objet du désir, et il y a la construction d'abord à l'intérieur de soi, de l'élaboration de ce désir. Alors Julien, il ressent bien cette excitation et l'inhibition qui s'ensuit, mais cette inhibition, elle ne s'apaise jamais, même si l'autre est bienveillant et cherche la relation avec lui. Alors donc la deuxième étape, c'est ce travail d'intériorisation et le travail de l'imaginaire. Encore une fois, seul le pervers ne va pas faire ce travail. Et donc, dans ce travail d'intériorisation, où on laisse aller ses fantasmes, où on rêve à l'objet, à la personne qui nous attire, etc., il y a un grand plaisir qui peut se développer, et parfois le plaisir imaginaire semble plus agréable que la réalité, ou en tout cas il fait moins peur, et donc parfois ça se bloque à ce niveau-là. On ne va pas chercher la relation réelle, on entretient ses fantasmes, etc. C'est ce qui se passe pour Julien aussi. Grâce à cette élaboration intérieure, à ce plaisir imaginaire, on est confronté aussi à des aspects de nos pulsions qui ne sont pas toujours du côté de la tendresse. On peut ressentir aussi des pulsions plus perverses, plus violentes, etc. Et donc il y a tout un travail qui va devoir se faire pour de conflits intérieurs entre différents désirs pulsionnels. Et si on veut construire quelque chose dans la réalité, il va falloir désintoxiquer le désir sexuel de ses composantes violentes. Et donc pouvoir sublimer ces composantes violentes et pouvoir se sentir capable de vivre son désir dans un lien qui respecte l'autre et qui se vit plus du côté de la tendresse. Alors, ce qui m'a frappé dans tout ce que Descartes dit, c'est que personnellement, j'ai l'impression qu'il parle plus de la sexualité masculine, mais j'ai trouvé quand même que ce qu'il disait était intéressant à réfléchir comme femme également. Il faut savoir que chez l'homme aussi, les pulsions sexuelles sont provoquées par les mêmes hormones que celles de l'agressivité, justement. Mais en même temps, les pulsions de mort chez la femme, on en a parlé avant les vacances de Pâques, ça peut être aussi une autodestruction. Ou comme chez Vanessa, cette jeune femme qui s'entraînait à ne pas tomber amoureuse de l'autre. Et donc... on était aussi dans des pulsions agressives, mais peut-être c'est pas les mêmes. Je suis sûre, c'est pas les mêmes fantasmes que chez un homme. La troisième étape, une fois qu'on a pris conscience des conflits intérieurs et qu'il y a ce travail de sublimation, de renoncement aux pulsions violentes, ça va être de pouvoir quand même les exprimer sous une forme symbolisée. Alors là, c'est toujours un travail qu'on fait par rapport à soi, mais la culture nous offre des moyens pour nous-mêmes en tant qu'individus, mais aussi pour le couple, pour pouvoir faire quelque chose dans la réalité du lien, mais d'une façon sublimée, avec cette ambivalence, avec ces forces agressives et ces forces de désir plus tendre, etc. Par exemple, le théâtre, par exemple, le cinéma, par exemple, un match de tennis, par exemple, le tango, par exemple, dans la danse, dans la musique, dans le jeu, un jeu d'échecs. Il y a moyen de construire du lien où on est à la fois dans la tendresse et le combat. Donc, il y a là, on est dans le travail de sublimation des pulsions, mais dans ce travail de symbolisation aussi, où ces pulsions peuvent se vivre de façon sublimée et en même temps construire du lien. Alors la cinquième étape, ça sera à l'intérieur même du lien sexuel et amoureux, de construire des rituels qui disent à l'autre qu'il ne doit pas avoir peur de notre agressivité, qu'on la travaille, qu'on est dans une volonté de bienveillance, etc. Donc il y a les cadeaux, il y a les messages verbaux, les SMS, il y a, enfin voilà, tous les rituels du don qui sont censés dire « tu n'as rien à craindre de moi, ne t'inquiète pas, même si tu me frustres, même si je ne suis pas tout à fait content, c'est pas grave, on s'aime, etc. etc. Je suis capable de supporter des frustrations pour toi, etc. » Poser des actes pacifiants. Alors là, c'est très intéressant en ethnopsychiatrie de voir que certaines cultures ont vraiment ritualisé ça à un niveau collectif. Par exemple, de Garzon comme exemple, les Indiens Arapesh, où l'homme, dès l'âge de 12 ans, doit travailler pour nourrir sa promise. Et donc, il va travailler au champ ou ailleurs, etc. Et il la nourrit depuis l'âge de 12 ans jusqu'à leur mariage. Et donc, il y a toute cette construction de « tu ne dois pas avoir peur de moi, je suis là pour te faire du bien, je suis prêt à souffrir pour toi, à faire des choses, etc. » Voilà. Alors, quand il nous a dit tout ça, Deukers nous dit que malgré ça, le lien sexuel ne suffit pas à construire un lien qui dure. Et il se pose la question, il n'y répond pas d'ailleurs, hein, il découvre que un lien sexuel qui se passe bien, sans peur de l'autre, etc., ne va pas suffire à construire de l'attachement, même si la sexualité est satisfaisante. Alors, on verra encore la fois prochaine pourquoi, on essaiera de comprendre pourquoi, mais il s'étonne en disant « mais c'est bizarre, dans l'enfance, le bébé il s'attache à celui qui lui fait du bien, à celui qui prend soin de lui, qui répond à ses besoins et qui prend soin de ses émotions. Qu'est-ce qui fait que des relations sexuelles satisfaisantes entre deux personnes n'ont pas le même effet et ne produisent pas de l'attachement d'office ?» La jouissance sexuelle répétée dans un lien amoureux pacifié ne garantit rien. L'ennui, la chute du désir guettent quand même le couple, même si ça se passe bien. Et le monde extérieur reste rempli de personnes que l'on peut désirer. Voilà, ça c'est pour Deukers. Maintenant, si on prend les systémiciens, on peut se dire qu'il y a un autre type de travail de sublimation à faire en couple, ensemble. Le travail individuel de sublimation ne suffit pas à construire du lien. Les systémiciens le savent. En thérapie de couple, on ne va pas s'occuper de chaque personne uniquement, en particulier. On va aussi s'occuper ensemble du lien du couple. Je vous ai parlé du fait qu'une relation de couple, c'est comme un jardin, comme une troisième personne, comme un jardin qu'on cultive ensemble. Et voilà, c'est pas simplement monsieur ou madame qui vont prendre soin l'un de l'autre, c'est aussi ce lien qui est comme une troisième personne qu'on va construire ensemble pour qu'on puisse s'y tenir ensemble et s'y sentir bien. Qu'est-ce qu'on va y planter? Qu'est-ce qu'on doit arracher comme mauvaise herbe? Qui on va inviter dans ce jardin? Et quand on commence à s'ennuyer dans le jardin, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il soit de nouveau agréable, etc. Et donc, de la même façon, dans ce travail de transformation du désir, il va falloir passer d'un désir de l'autre pour soi, pour me satisfaire, à un désir avec l'autre, pour construire un lien qui peut accueillir d'autres liens. Et donc, il va falloir transformer ce désir pour qu'il puisse créer du lien plus large que nous deux. Ce n'est pas simplement moi pour toi et toi pour moi, mais comment on va construire ce jardin pour en accueillir d'autres. Et donc là aussi, on va partir d'une idéalisation du lien de couple. Quand on décide de se marier, etc., on imagine quelle sera la vie du couple, on idéalise l'avenir. Et puis il y aura des désillusions, et puis la réalité ne sera pas ce qu'on avait rêvé. Et donc il y aura aussi tout ce travail de garder le désir vivant, de transformer ce désir pour qu'il puisse accepter la réalité et quand même pouvoir chaque fois planter des nouvelles fleurs et construire ce désir d'être ensemble et comment être bien ensemble. Donc dans le travail de sublimation du couple, il ne suffit pas d'idéaliser chacun l'autre pour soi, mais il faut pouvoir idéaliser ensemble le couple aussi et le transformer. On va prendre un exemple clinique pour illustrer ça. Alors, monsieur et madame, dont je vais vous parler, sont mariés depuis 18 ans. Ils ont 4 enfants. Et leur deuxième enfant est mort à la naissance, 7 ans avant qu'ils viennent me voir. Ils viennent en famille au départ avec leurs enfants parce qu'il y a énormément de conflits. Mais très vite, ils viendront en couple parce qu'on va constater ensemble qu'il y a vraiment un problème au niveau du couple parental. Ils n'arrivent pas à être d'accord. Et donc, je propose qu'on travaille d'abord au niveau du couple parental. Très vite, et ça s'avère plus compliqué que simplement un conflit de parents. Madame me dit qu'elle veut quitter monsieur car la vie est devenue trop dure, elle doit faire trop d'efforts au quotidien, il y a trop de tensions, elle a peur de craquer, elle commence à tomber malade. Le couple est devenu la poubelle des émotions de chacun, les enfants ont également beaucoup d'émotions qu'ils déversent sans ménagement sur leurs propres parents. Et en entretien de couple, il y a aussi trop d'émotions négatives, trop de reproches, trop de projections. Et donc chacun, ils sont devenus un miroir négatif pour l'autre, ce qui est très mauvais. Et donc je propose, dans un premier temps, vu toutes ces émotions négatives, de les voir séparément. Alors quand on est en thérapie de couple et qu'on voit les personnes séparément, il y a des lois particulières à respecter, on n'est pas dans le secret. On fait un travail sur les émotions, pour que chaque personne puisse déverser ses émotions sur le thérapeute et qu'avec l'aide du thérapeute, elle trouve une façon de dire ce qu'elle veut dire à l'autre pour que l'autre la comprenne sans blesser l'autre et sans blesser le lien. Donc c'est vraiment un travail émotionnel pour apprendre à se parler sans se blesser encore plus. Mais il ne faut pas se laisser piéger dans des secrets. Donc ça, c'est clair qu'il ne peut pas y avoir de secret entre le thérapeute et un des membres du couple, comme par exemple d'une trahison ou des choses comme ça. Alors, monsieur exprime ça, dans ces entretiens séparés, monsieur exprime sa souffrance d'emblée par rapport à la sexualité. Madame ne le désire plus, ils n'ont plus de relations sexuelles depuis 3 ans. Elle a envie de partir, me dit-il. Et d'ailleurs, elle est tout le temps partie avec ses amis. Elle investit beaucoup son travail, elle s'occupe de sa famille. Et monsieur considère la famille de madame comme une rivale. Monsieur n'a plus de famille, ou en tout cas, il a rompu les liens avec sa famille, et il voudrait que madame fasse comme lui et prenne distance par rapport à la sienne. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez du cours sur les loyautés. À partir du moment où les loyautés de sang sont en rivalité avec les loyautés de couple, le couple est en danger. Donc ça, je travaille avec monsieur en disant que, bon, voilà, s'il essaye de couper la relation que madame a avec sa famille, il met son couple en danger. Madame, elle souffre de ne plus pouvoir s'appuyer sur monsieur. Elle a l'impression d'avoir dû le porter depuis la mort de leur enfant, alors qu'avant c'était un homme fort sur qui elle pouvait vraiment s'appuyer. Elle a dû donc trouver d'autres appuis, notamment dans sa famille. Et le fait que monsieur ne soit plus du tout un homme fort a provoqué une chute du désir sexuel. Plus rien ne coule de source dans le quotidien, tout est devenu un combat, un effort, sujet à discussion, etc. Donc on peut dire que les besoins et les désirs de chacun dans le couple ne sont plus du tout comblés, que les déceptions sont très grandes, ils n'arrivent plus ni à se désirer l'un l'autre, ni à désirer être ensemble. Donc première étape du travail, ne plus déverser ses émotions négatives l'un sur l'autre. Et donc voilà, par rapport à cette phase du renoncement, Bernard a parlé du travail de l'étape narcissique. Là, dans ce stade-ci, c'est chacun qui doit trouver une manière de se reconstruire sans compter sur l'autre pour se reconstruire. Donc j'invite madame et monsieur, chacun avec les moyens qu'ils ont, à trouver des appuis nécessaires pour se reconstruire chacun et ne pas peser avec toute leur souffrance l'un sur l'autre. Je vous rappelle qu'on est aussi dans un effondrement post-traumatique après la mort de cet enfant et qu'ils n'ont pas eu beaucoup de ressources familiales pour les aider à ce moment-là. Et bon, ça marche, madame change de travail, monsieur réinvestit la relation avec son fils en faisant du foot et en s'inscrivant dans un club de foot avec lui, ça marche bien. Et donc, chacun séparément commence à retrouver du bonheur avec les enfants et avec des amis. Madame part avec les enfants dans sa famille en vacances, mais bon, monsieur l'accepte, etc. Ils arrêtent aussi d'être un miroir négatif l'un pour l'autre. Alors ça, c'est très très important. Je dis toujours aux couples qu'ils sont en danger à partir du moment où ils se renvoient une image négative l'un à l'autre. Hein, il faut le couple est le lieu de l'attachement sécure, devrait être le lieu de l'attachement sécure. Et donc, on doit sentir qu'on est quelqu'un de bien pour l'autre. Si on ne sent plus qu'on est quelqu'un de bien pour l'autre, le couple est vraiment en danger. Donc ça, c'est très très important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour monsieur et pour madame au départ? Comment ils se sont idéalisés? Donc madame est tombée amoureuse d'un homme fort et loyal surtout. Un homme fidèle, alors qu'elle sortait d'une histoire d'amour où elle avait été trahie. Elle trouvait enfin un appui solide, un homme qui avait des valeurs, et elle avait confiance en lui parce que monsieur avait énormément souffert du fait que son père avait quitté sa mère et était parti au bout du monde, que sa mère était devenue alcoolique suite à la séparation, et donc en tout cas, il ne voulait pas faire comme son père et il jurait fidélité jusqu'à la mort à sa femme. Et donc madame est tombée amoureuse de ses valeurs, de cette force, de ce désir de ne pas reproduire le mal de la génération précédente. Monsieur, lui, est tombé amoureux d'une femme très généreuse, qui donnait tout en ne réclamant rien en retour à sa famille, à ses amis, etc. Et qui surtout lui donnait aussi énormément de reconnaissance par rapport à tout ce qu'il faisait pour elle. Et donc, lui qui n'avait pas pu aider sa mère, qui avait sombré dans l'alcoolisme, aider une femme qui se laissait aider et qui le remerciait, c'était quelque chose de très agréable. Et en plus, ils avaient un rêve commun qui était très fort, d'une famille unie, heureuse pour toujours, etc. Et c'est vraiment la mort de ce deuxième enfant qui les a cassés tous les deux et qui a cassé le lien. Et c'est madame qui, à ce moment-là, a été la plus forte et qui a dû vraiment porter monsieur pendant des années, etc. Alors, ils ont décidé d'avoir un troisième et un quatrième enfant en espérant que ces enfants allaient redynamiser leur couple, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et au contraire, il y a eu des nouveaux problèmes au niveau du couple parental, parce que madame trouvait que monsieur était trop sévère avec les enfants, jamais content, pas assez valorisant. Et lui, il disait, mais enfin, je suis sévère parce qu'il te marche sur la tête, et donc c'est pour t'aider que je suis sévère, parce qu'ils ne t'obéissent pas, et tu te plains de ça, etc. Mais enfin, ça tournait en rond dans ce genre de choses. Alors, nouvelle étape dans le travail, c'est que je me rends compte que chacun est sorti de sa dépression grâce à tout ce qu'il a trouvé ailleurs, mais qu'ils n'arrivent pas encore à désirer être ensemble. Et là, on commence à travailler là-dessus. Et ils me disent qu'effectivement, depuis que ça va mal, ils ont essayé de fonctionner en faisant alternativement des sacrifices l'un pour l'autre, qu'ils n'ont plus jamais réussi à trouver un désir qui les rendait heureux tous les deux ensemble. Si monsieur avait envie d'aller en Espagne, mais madame avait plutôt envie d'aller en Italie, mais alors c'est rien, madame faisait l'effort d'aller en Espagne, et puis on se disait que l'année suivante, on irait en Italie. Hein, mais donc, ils faisaient des sacrifices l'un pour l'autre, mais ils n'arrivaient pas à construire vraiment un désir commun, etc. Bon, on a travaillé ça. Je leur ai dit, vous arrêtez de faire des efforts l'un pour l'autre. Maintenant, il faut vraiment trouver un jardin où vous vous sentez bien ensemble. Et puis, ils ont trouvé. Ça a été, enfin, le couple auquel je pense rêvait de visiter Londres depuis des années. Et donc, ils sont partis à Londres. Et de Londres, ils m'ont envoyé une lettre et une photo d'eux. Et puis quand on s'est revus, ils m'ont raconté ce qui s'était passé. Et c'est là que j'ai appris qu'en fait, ils n'avaient plus de relations sexuelles depuis 3 ans. On n'en avait jamais parlé, ils n'étaient pas tellement pleins de ça. Mais c'est quand ils ont retrouvé ce désir commun et ce voyage où ils se sont sentis bien ensemble dans cette ville que leur vie sexuelle a pu reprendre un cours normal et qu'ils ont pu se redonner de la force et de la vie l'un à l'autre. Voilà. On reprendra ce thème du lien sexuel, du lien conjugal et du lien parental avec un autre angle de vue plus systémique la fois prochaine.